Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Richard Ruben.
Bonjour.
Bonjour Richard, comment vas-tu?
Franchement, comme un semi-confiné, bien.
Et oui, comme tout le monde, ouais, c'est sûr que c'est pas facile en ce moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
Eh bien, le plaisir est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter?
Oh, moi, avec tant d'années de carrière, je pourrais écrire un catalogue d'anecdotes. Mais bon, si tu me demandes de choisir, il y en a une qui est particulièrement marquante. Ça se passe, il y a déjà un bon moment, ça se passe en 1999. Là, en Belgique, je viens de faire une tournée où j'ai même été jusqu'à Toulouse, en France, partout. Voilà, je joue un peu partout un spectacle qui s'appelait à l'époque, je pense, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelait La Fracture, mon one-man show de l'époque. Et puis, on m'appelle et on me dit, voilà, est-ce que vous seriez prêt pour jouer dans un centre culturel dans 15 jours ? Je dis, dans 15 jours ? À Gembloux, près de Namur, en Belgique, en Wallonie ? Je dis, mais c'est un peu juste. Non, non, on s'occupe de tout. C'était tellement court que j'ai dit, je vous amène moi-même le contrat et je vous fais déposer les affiches. Je rencontre le directeur du centre culturel, je remets mes affiches et je rentre chez moi avec un sentiment bizarre de me dire, il y a des gens qui organisent des spectacles dans 15 jours. Alors, voilà, le jour arrive, mes équipes sont déjà sur place, j'arrive, nickel, une salle d'environ 600 places. C'est le centre culturel classique, hein, comme tu as partout, comme tu as des MJC, des centres culturels, de l'État bien organisé, beau balcon, il y a un parterre de 300 places, un balcon de 200, 300, je ne sais plus. On fait les répètes, tout est nickel, je monte sur scène, on me dit on va y aller, il est 20h35, 40. Au moment où j'arrive sur scène, j'ai un applaudissement poli. Sans plus. Je dis, tiens, on n'a pas l'air de m'attendre vraiment. La salle est pleine. Et puis, je sors ma première vanne, mais c'est des vannes que j'ai jouées 100 fois.
Elles sont validées, elles sont, voilà.
Pas un rire, pas un applause, rien. Je dis, ah, tiens, je ne sais pas ce qui se passe. Je continue le spectacle et au bout de 2 minutes, je me rends compte que personne ne rit à rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? C'est moi? Puis, je commence à voir des personnes âgées, je vois rarement de personnes comme ça âgées au premier rang, qui commence à lire des prospectus, des revues, des journaux. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est moi qui suis plus drôle. Puis je vois des gens qui commencent à se répondre avec leur portable. Ils commencent à avoir des ambiances bizarres. Et tout d'un coup, au bout de la 10e vanne, un groupe de 2, 3 s'en vont. Ah bon, tiens, ils s'en vont. Bon, je continue. Oh là là. C'est stressant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus drôle. Je sors mes vannes comme je les ai tous. Peut-être que je n'ai plus le truc. Ça fait des années que je n'ai plus le truc. Ça continue. Et les gens commencent à s'appeler, des jeunes se marient, ils sortent par grappes de 5, 8, 10.
Ouh là là là
là. Il y a un bébé qui commence à pleurer. un bébé, mais qu'est-ce que fout ce bébé dans la salle? Je vois une femme qui se lève et qui lui change ses couches. Mais on est où? Elle commence à... Les gens continuent à partir, ils continuent à partir. Au fur et à mesure que le spectacle... Et moi, je me dis, c'est moi. Et je suis à une heure de spectacle.
Oh là là.
Un rire, pas un applaudissement, même dans les noirs, quand changement de lumière, une petite musique, tout était bien rodé, régime.
Normalement, il y a un réflexe, normalement, dès que la lumière s'éteint et que le comédien genre part et revient ou un truc comme ça, normalement, il y a un applaudissement automatique.
T'as une vanne, rire, noir, applause, enfin, c'est réglé comme du papier à lettres, c'est-à-dire qu'on sait où les gens, c'est du travail de plusieurs mois, un spectacle, les gens, rien, et on arrive à 1h05. Et au bout de 1h10, il reste environ 10 personnes dans une salle de 500 ou 600.
Mon Dieu.
10 oh là là. Sont tous partis. Et moi, je suis le stakhanoviste. Je continue, je me dis, je ne suis plus drôle, mais j'irai jusqu'au bout. À ce moment-là, il y a un mec au premier rang qui mange des chips. Il doit avoir une femme de 25 ans. Et il se lève, et il monte sur scène, et il me dit, c'est quand même foutu, tu veux un chips?
Oh là 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 là.
Écoutez, je ne sais pas si on s'est bien compris ici, et je m'arrête de jouer au bout d'1h15. Et je dis, je ne sais pas, je crois que c'est vous ou c'est moi. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas. C'est peut-être moi, c'est même fort probable que ce soit moi. Je vais donc vous laisser. Et je quitte la scène, et les 10 personnes, ils sont quand même très forts, ils me sifflent, les 10. Il faut vraiment être... je viens de m'en prendre plein la gueule pendant 1h10, 1h15. Je quitte la scène. Il faut savoir qu'en 1h10, 1h15, ça devenait quasi un filage. Puisque quand tu n'as pas de réaction, tu as beau dire, centré, que tu fais tes effets, ça devient un filage. Je quitte la salle, dépité, je rentre dans ma loge. Et à ce moment-là, je vois un gars qui me rejoint. Je ne le reconnais pas, je le prends pour quelqu'un d'autre. Avec une casquette. Il me dit, allez, viens, viens. Je dis, mais ce type est fou, qu'est-ce qu'il me demande de venir dans la salle? Et en fait, je n'avais pas reconnu, c'était un des animateurs numéro 1 en Belgique, qui est un petit peu connu en France parce qu'il est sur RTL. Il a beaucoup de talent. Il est sur RTL France, c'est Jean-Michel Zeka. En Belgique, c'est numéro 1. Comme tu dirais en France, je ne sais pas moi, il y a Drucker, ou il y a.
Ah oui, d'accord.
Ou il y a Arthur, ou il y a. Voilà. Il commençait à être connu, il n'était pas encore. Il devenait connu. Et j'entends une salle pleine qui me rappelle. Je dis, c'est des grands malades. J'entends 500 personnes qui me rappellent. Et il me ramène sur scène. Et à ce moment-là, je vois 500 personnes ou 600 debout au balcon, au rez-de-chaussée. Oh, font un rappel monstrueux. Oh, et à ce moment-là, je vois un type qui arrive avec un micro qui dit « Eh bien, ce soir, nous avons piégé Richard Ruben. » Et je vois des caméramans qui sortent de vitres sans teint. Ils avaient truqué, ils étaient derrière des vitres sans teint avec leur caméra. Tout était planqué. Et je reconnais toutes les équipes parce que c'est une chaîne où je vais souvent. Moi, en fait, il y a deux grandes chaînes en Belgique, c'est RTBF et RTL. Et je vais chez l'un et les autres. Et donc, je reconnais tous ces caméramans. Et à ce moment-là, je comprends ce qui m'arrive. Donc, les gens sont revenus dans la salle. Et on me dit, voilà, maintenant, on va faire quelques plans de coupe parce que ça va passer en prime. Ils avaient fait venir tout un quart régie comme si c'était une captation. Hein. Et ça a été diffusé donc, dans une émission qui s'appelait « Si c'était vous », qui était une sorte de surprise-surprise belge.
Voilà, et c'est ce que j'allais dire, c'est surprise-surprise.
Voilà, et le passage, si tu veux, il recondense tout, ça fait 6-7 minutes. Et on me demande si tu veux bien assister le jour même de venir raconter comment ça s'est passé sur le plateau. Je dis, j'ai tellement souffert que... c'est sûr. Et il faut savoir que le gars qui monte sur scène pendant 30 secondes pour parce que, en fait, le producteur était persuadé que moi, je craquerais au bout de 3 minutes, que je comprendrais que c'est une blague. Pas du tout. Plus c'est énorme, plus ça passe. Donc moi, j'étais persuadé que j'étais pas drôle, donc je continue. Les gens m'ont dit, on nous a réunis sur la place quand on réservait nos tickets, on disait non, c'est gratuit, et on vous donne rendez-vous une demi-heure avant, à 300 mètres de là, sur une place. Comme ça, ils ont dit aux gens ce qu'ils devaient faire. Entre chaque spectateur, il y avait tous les trois spectateurs. Il y avait un comédien ou un mec de prod. Donc il y avait autant de gens de la prod que de spectateurs dans la salle.
D'accord. Ah, quelle gens logistique.
Tous les gens faisaient des signes de logistique. Allez, maintenant, on envoie le bébé. On lui a donné une petite tapote, il s'est mis à pleurer, on le cherche ses couches. Les personnes âgées, on leur avait dit, quand on vous fera signe, voici les journaux, vous les ouvrirez. Au début, on avait envie de rire, parce que les vannes étaient bonnes, mais on s'est retenu. Mais les gens m'ont expliqué qu'en fait, très vite, il y a un sentiment de honte. C'est-à-dire, on est terrorisé par ce qui t'arrive, les gens m'ont dit. Donc, on n'a même plus envie de rire tellement... On a de la pitié pour toi en disant, mais le pauvre, s'il savait. Et donc, le producteur qui était bien connu chez nous, il me dit, écoute, tu veux que je t'emmène? Il voulait m'emmener dans un étoilé Michelin qu'il avait fait garder ouvert le soir. Moi, j'ai dit, non, on est allé dans un café dans la petite ville où je jouais et on a mangé une spécialité belge qui s'appelle des boulettes de viande sauce tomate. J'étais tellement carbonisé. Parce que, dis-toi bien une chose, c'est que quand tu es sur scène, tu sues. Mais quand un truc comme ça t'arrive, tu ne sues pas de la même manière parce que tu ne te donnes pas de la même manière. Tu n'as pas d'émotion positive. Ce qui fait que j'ai sué de l'intérieur. Oh. J'étais un peu comme Coluche dans L'aile ou la cuisse quand il est dans la croustade.
Il ne fait pas froid.
Donc, si tu veux, j'étais comme un pruneau au lard qu'on a mis au four. C'est-à-dire que j'étais de l'extérieur, j'étais comme en cire. Je n'avais pas bougé. Et à l'intérieur, j'étais cuit.
Là, tu t'es décomposé, quoi.
J'étais décomposé. Et on m'a emmené manger des boulettes de sauce tomate. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que le gars qui s'est levé, qui n'a donc participé qu'une minute dans un gag de tournage d'une heure et demie, eh bien, c'était sa première intervention en tant que caméra cachée. Si je te le refais, c'est quand même foutu. Est-ce que tu veux un chips? C'était François Damien.
C'est pas vrai.
Sa caméra cachée. Donc, tu as été le premier...
Tu as été le premier piégé avec François Damiens.
Quoi. Connu, il était jusque-là assistant de prod. Donc, il est passé, si tu veux, il a fallu mon piège pour qu'il passe de ce côté-là.
Mais
donc,
c'est voilà. Génial.
Moi qui ai fait le baptême du feu involontaire à François David, qui a un talent énorme. Hein, je veux dire, moi, je suis fan de ses films. C'est un... Je ne sais pas si tu as vu le film qu'il a monté, qui a moins marché en France qu'en Belgique, qui s'appelle Monquette.
Oui, Monquette, oui. Il est génial.
C'est digne de Borat, dans un autre genre. Enfin, ça ressemble un peu, mais c'est un peu le Borat français, j'allais dire. Et belge, en l'occurrence. Et donc ouais, voilà. Ouais. Donc, je suis venu à l'émission sur le plateau. On a enregistré. Puis c'est passé. Et quand c'est passé, ça a fait un record d'audience. Et j'ai vendu 3 dates la même semaine. Comme quoi, les gens, quand tu rames... Quand tu montres que tu es humain, parce que apparemment les gens ont été touchés par le fait que je me pose des questions en me disant c'est peut-être moi qui n'ai pas été drôle. À aucun moment j'ai remis le public en cause. Et donc, je pense qu'apparemment les gens ont sorti comme une sorte d'humilité, parce que c'est vrai que moi je prétends rien savoir dans la vie. Je suis comme tout le monde, je n'ai aucune certitude. Même si je pense qu'un artiste, au moment où il monte sur scène, même s'il a des doutes avant, au moment où il monte sur scène, il doit en avoir aucun sur ses capacités. Sinon, tu ne fais pas ce métier. Au moment où tu montes, tu dois te dire, là, je n'ai pas un doute sur ce que j'ai écrit, sur ce que j'interprète. Ce n'est pas à 8 secondes de monter sur scène que tu vas commencer à dire, est-ce que je suis drôle aujourd'hui ?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc, tu peux te dire, j'espère que ça va marcher, qu'ils vont être bons, que ce soit une bonne salle. Ça oui. Mais tu peux pas en doute la possibilité d'être un showman ou d'être un humoriste. Et donc, si tu veux, moi, j'ai pas du tout remis en doute le public. Je me suis dit, ce jour-là, pour la première fois de ma vie, je ne fais plus rire. Heureusement, après, lorsqu'ils m'ont rappelé qu'ils m'ont montré la salle pleine et que le producteur a pris le micro en main, il m'a dit, est-ce que tu pourrais nous refaire encore un sketch pour que tu puisses te prouver que tu n'es pas devant une salle qu'il déteste. Et à ce moment-là, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai joué un sketch qui était le rappel.
Ouais.
Et que je n'avais pas eu le temps de jouer, parce que j'avais tout joué, une heure et demie. J'avais joué un spectacle d'une heure et demie en 1h10. À coup pas, gagner 20 minutes, c'est énorme. Ouais. Et il me restait le rappel. Et le rappel, c'était un personnage qui était inspiré du personnage du producteur, parce qu'il est connu dans le métier. J'avais fait un personnage inspiré de lui.
Ah oui, donc ça tombait parfaitement, quoi.
Ça tombait parfaitement. Donc les gens riaient doublement, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la prod. Et donc, un producteur de télévision un peu particulier qui s'appelait Johnny Cohen.
Et donc, ça a cartonné, quoi.
Voilà. Et donc, j'ai été rassuré. Mais c'est 1h15 que j'aurais jamais dû vivre dans ma vie. Parce que maintenant, puisque je ne savais pas à ce moment-là, j'aurais toujours ce souvenir de me sentir ne faisant plus rire devant une salle pleine.
Ah, mais je comprends.
Même si un jour, tu as un mauvais son, tu as toujours des gens, ça peut arriver des galères, mais même si c'était au début, des galères tout chapiteau, il y a 30 ans. Mais là, tout était optimal. On avait un bon son,
voilà.
Lumière.
Et la salle pleine.
Voilà, ils avaient mis mes régisseurs dans la confidence une demi-heure avant que je monte sur scène, au dernier moment, pour qu'ils soient le plus naturel possible avec moi.
D'accord, mais c'est quand même incroyable parce que après le danger avec ce genre d'anecdote, c'est que si jamais un jour tu fais vraiment un gros bide pendant un spectacle, tu vas commencer à dire bon, ils sont où là, ils sont où toute l'équipe.
Alors figure-toi que la semaine suivante, j'avais un gala privé où les gens étaient bourrés. Il n'arrive jamais des trucs comme ça, un gala privé dans une superbe villa où j'étais payé plein pot et mais ça riait quand même, mais ils étaient bourrés. Et à un moment, je dis le producteur s'appelait Boris et en plein spectacle, je dis Boris. J'étais persuadé que c'était la suite.
Ah mais c'est génial. Ah mais vraiment, là ton anecdote, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. C'est clair que c'est incroyable et la logistique qu'ils ont mis en place, tout ça, c'est dingue quoi.
Je pense qu'on n'a jamais fait ça en Europe, en tout cas, de piéger quelqu'un avec toute une fausse salle. C'est quand même énorme.
Bah, surtout, non, alors la fausse salle encore, c'est fort, mais là où je suis étonné en fait, c'est qu'ils aient laissé ça durer pendant 1h30, tu vois, enfin à la base, 1h30.
C'est sadique.
Bah, je pense qu'ils auraient dû, tu vois, bah, le personnage de François Damiens, justement, qui est venu avec les chips, genre à la fin, il aurait peut-être dû venir, enfin, j'aurais imaginé qu'il serait venu beaucoup plus tôt.
Bah,
Genre au bout de.
normalement, il aurait dû monter sur scène 20 minutes après mon début, je dirais, pour avoir.
Voilà, voilà, voilà.
Mais 1 heure et quart, c'est quand même du vice.
Là, j'allais te dire, il y a plusieurs choses qu'on peut tirer de cette anecdote. Déjà, premièrement, respect à toi, parce qu'on voit que tu es un vrai artiste, clairement, qui se remet en question avant de remettre en question le reste. Donc, déjà, c'est très bien, c'est exactement l'état d'esprit qu'il faut, parce qu'on a tendance un petit peu, des fois, quand on est un peu aigri à cause d'un bide ou quoi, on a tendance à dire, ah, le public était pourri ce soir. Non, pas forcément. Ça vient pas forcément du public. Des fois, ça peut être le cas, parce que des fois, le public ne met aucun, comment dire, ne met
non,
aucun effort.
Tu peux avoir des salles plus froides que d'autres, mais nous, notre rôle.
Oui.
Professionnel, moi je sais que ça, c'est même parfois très palpitant et excitant de se dire je vais retourner une salle. Parfois tu arrives dans une salle, même tu sais, parfois j'écoute une salle avant de monter sur scène, je dis ouh là là, ce soir il va falloir les réveiller parce que j'entends même pas de brouhaha. Parfois ils sont 1000, tu as l'impression qu'ils sont 80. Et tu montes, et pendant les 2-3 premières minutes, tu entends des petites vagues gentilles. Et à ce moment-là, tu les retournes à un moment, on t'envoie le scud, mais d'une manière, tu y vas, tu les retournes et tu les as à fond jusqu'au bout. Ça, c'est pour moi gratifiant. Tu sais, ça arrive que tu vendes une salle à un public qui n'a pas choisi de te voir parce que c'est pour un service style Rotary. Ou... Ça arrive. Hein, et que,
oui, oui.
Bah oui, on le connaît par la télé, on va aller le voir, mais je ne suis pas fan. Et moi, pour moi, le plus beau plaisir, c'est quand j'ai une salle calme pendant 5-10 minutes, puis je la retourne et au bout d'une heure et demie, les gens viennent me trouver en disant « Écoutez, je vous connaissais de la télé, je vous appréciais moyen parce que peut-être que ce n'est pas les sketchs qui me convenaient. Et là, je vous ai vraiment découvert sur scène et maintenant, je suis conquis. » Pour moi, ça, c'est le plus grand cadeau. C'est
ah,
que des
c'est
gens
cool.
qui sont venus un peu obligés par leur service club reviennent te voir en billetterie spontanément 2 ans après, par exemple.
Ah, c'est beau, c'est beau. Ben, ça veut dire que tu les as conquis. C'est,
voilà,
c'est génial.
Et c'est ça qu'il faut avoir de l'humilité dans ce métier, c'est qu'on doit conquérir les gens tout le temps. Moi, j'ai vu des stars se viander dans des circonstances particulières. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais là, ne pas avoir un rire, même pas un applaudissement, je me suis dit, parce que honnêtement, partout où on va, on a un accueil fabuleux. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est quasi impossible d'avoir un truc comme ça. C'est impossible. Mais bon.
Surtout que le public belge est réputé pour être généreux et très réactif.
Mais je me suis dit, c'est impossible. Mais. Je ne me suis même pas dit c'est impossible parce que plus c'est énorme, plus ça passe une caméra cachée. Donc là, je me suis dit, bah oui, c'est moi. Bah, Dieu merci, depuis 22 ans qu'il m'est arrivé cette histoire, je n'ai jamais connu une salle froide comme ça.
Mais c'est vraiment magnifique, en tout cas, comme anecdote, parce que on imagine tous ce qu'on aurait ressenti, parce qu'on a déjà pris des bides. Hein. Moi, bien évidemment, moi le premier, des fois, je suis tombé dans des salles vraiment pas réactives et tout. Mais c'était sûrement.
Moi, je ne savais pas que tu jouais sur scène.
Ah oui, non, je suis stand-upper. Moi, je fais du stand-up depuis 8 ans. Ben, d'ailleurs, ma dernière scène, c'était à Scarbeck, c'était à Los Amoual.
Ah oui, je connais. Tout le monde a joué là-bas. C'est énorme.
Ah oui, avec le What the Fun, si tu connais.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà, donc c'était ma dernière scène. Et le public belge, j'en suis amoureux, vraiment. Hein. J'ai joué, on va dire, une dizaine de fois en Belgique. C'est vraiment un plaisir à chaque fois. Le public est génial. On est bien accueillis.
Attention, c'est d'autant plus gratifiant. Le public belge est entier. Si tu es mauvais, ils ne vont pas rire. Hein.
Ah oui, totalement, bien sûr.
Ils sont entiers. Une fois qu'ils aiment, ils aiment.
Mais voilà, moi, c'est ça le truc. C'est,
ils ont la bienveillance. Ils ont un a priori positif.
Voilà, c'est exactement ça.
Parce que à toi de faire le job.
Voilà, ben, contrairement au public parisien, par exemple, tu vois, qui est un petit peu plus exigeant et tout, parce que vu le nombre de spectacles qu'il y a par soir, si tu veux, ils se disent, si je t'ai choisi toi parmi les centaines de spectacles qu'il y avait ce soir, t'as intérêt à être bon. Alors que
oui,
le public.
Surtout, moi j'ai connu, j'ai joué à Paris, surtout s'ils ont eu des réductions par billets réduits.
Voilà, oui, en
par
effet.
Les comités d'entreprise, les pompiers de Paris.
Oui. Ah ouais, non, mais c'est très compliqué, malheureusement. Mais si tu veux, la différence, pour moi, la différence entre le public belge et le public parisien, c'est que le public parisien va être en mode bras croisés à dire « Allez, on va voir si tu vas me faire rire. »
C'est du showbiz parce que dès qu'il y a marqué « Vu à la télé », ils sont conquis aussi.
Ouais, bon, ben ça va, moi, ils risquent rien sur mon affiche, c'est pas marqué, donc ça va. Et par contre, le public belge, il est en mode bras ouverts et il dit « Je veux rigoler, donne-moi de quoi rigoler, vas-y, je veux rigoler. » Le public parisien, il faut le débloquer et le public belge, en fait, il est déjà en demande, en fait.
Voilà.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, Richard, pour cette anecdote mythique. Vraiment, là, c'est incroyable. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ?
Il y a un blackout sur cette vidéo introuvable.
Ah. Ah d'accord, dommage.
Donc, j'ai déjà demandé au producteur, il dit qu'il l'a perdu. Il faudrait aller dans les archives de la chaîne, mais c'est très compliqué. Mais enfin, si tu y arrives, t'es très fort.
Si j'y arrive, je te tiens au courant, mais bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup, j'ai pas encore mes entrées sur le dark web, donc ça va être compliqué. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette super anecdote. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Eh ben, je suis sur Facebook. J'ai ma page où je suis un peu bizarrement, je ne suis pas trop sur ma page, je suis sur mon compte privé. Vous pouvez me suivre sans être ami. Tu sais que c'est 5000 personnes. Je suis sur Instagram.
Ok, parfait. Ben, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.